C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... Toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Entre Canadiscan, Andrew et Laridé, Amzerzo, prenons le temps, tranquille pépère, et partons en Bretagne, pays du kouign-amann et du beurre salé, à la rencontre de la conteuse Fabienne Morel. Fabienne aime mélanger les savoirs, les saveurs et les cultures. Elle crée des spectacles aussi bien en solo qu'en duo, en collaboration avec la catalane Claire Garrigue ou encore avec l'italienne Deborah Di Giglio, avec qui elle tourne depuis longtemps, sous le nom de Huile d'olive et beurre salé. Après s'être plongée dans des études d'histoire et d'histoire de l'art, Fabienne explique « Quelque chose me manquait. J'ai commencé à suivre des cours d'improvisation théâtrale, des ateliers de clown, et j'ai découvert le conte. » Alors, elle se consacre à la collecte des récits des folkloristes bretons et est rapidement fascinée par la multiplicité des versions d'un même conte. Au micro d'Angèle Goduchot, c'est pas pour dire, aujourd'hui, avec Fabienne Morel.
I still have a dream.
Bonjour Anne-Gaëlle.
Ça va bien?
Ça va super.
Donc, t'es conteuse?
Il paraît, oui.
Ouais. Depuis longtemps?
Depuis le début du siècle presque.
Depuis le début
enfin,
du
non,
siècle?
Enfin, non, pas tout. Ouais, les premières années. Les premières années, j'ai dû commencer 2005-2006.
Ouais.
Ouais, à me lancer.
Et alors, t'as toujours fait ça?
Eh ben, du coup, non. Avant, il y avait d'autres choses.
Avant, t'as fait quoi?
Ouais. J'ai fait plusieurs choses. J'ai été instite suppléante. J'ai jamais passé les concours, mais j'ai quand même fait ça pendant plusieurs années. Au début, en même temps que mes études. Et puis chaque année, je reportais la décision de passer le concours parce que j'étais pas tout à fait sûre que je voulais faire ça pour toute la vie, pour de vrai.
Ouais.
Donc, j'ai reporté pendant 6 ans quand même.
Ah, quand
Et
même.
Au bout de 6 ans, je me suis
dit non.
Ah non, je ne vais peut-être pas passer toute ma vie dans une école. Voilà.
Tu as fait aussi de l'histoire, si j'ai bien compris.
J'ai fait des études d'histoire. Des études d'histoire, d'histoire de l'art. Voilà, je m'étais spécialisée dans le patrimoine.
Comment ça a débarqué dans ta vie, cette histoire de conte?
Depuis gamine, j'ai été attirée par le théâtre, déjà dans un premier temps. Quand j'étais au collège, je passais des semaines à écrire des pièces de théâtre. Je suis partie à une grande famille. On avait la tradition, le 31 décembre, de passer le premier de l'an tous ensemble.
Quand tu dis grande famille, tu ne parles pas de grande noblesse, tu parles de beaucoup de gens.
Ah non, pas du tout de grande noblesse. C'est plutôt une famille rurale très simple, mais nombreuse. Avec plein de cousins, cousines et tout.
Et donc le 31, vous faisiez...
Et le 31, on allait à la MJC de la commune où je vivais. Il y avait une petite scène. Et voilà, moi, les mois ouais, de la rentrée, je pense, de la rentrée à Noël, j'écrivais sur mes petits cahiers d'écolière, là, et je m'arrangeais pour que chaque cousin-cousine ait un
Un
rôle
rôle.
proportionné à l'âge. Donc, il n'y en avait qu'avec 3 ans, donc ils avaient
Ah,
presque rien à
génial,
dire. Donc, voilà.
génial.
Et puis, moi, j'étais dans les plus âgés de pas de la fratrie, mais de la cousinerie, je ne sais pas si ça se dit pas, mais voilà.
Ouais.
Donc, j'avais souvent le rôle principal, je me
Ah ouais.
servais bien, tu vois,
Ouais.
voilà. Et puis, ouais, non, c'est des très beaux souvenirs.
Donc là,
On
c'est
répétait dans
plus.
le salon de mes parents avec ma mère qui avait fait du théâtre aussi quand elle était jeune. Donc, elle avait le rôle de metteuse en scène
Ah, génial.
chez tous les gamins et tout.
Génial.
Donc, voilà, je pense que là, il y a quelque chose déjà qui est arrivé.
Tu connaissais le conte? Est-ce qu'on te racontait des histoires quand tu étais petite?
Alors, on ne me racontait pas d'histoire au sens conte et tout ça. Mais je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère et je faisais du collectage aussi, mais d'une seule personne.
C'est ça,
C'était de
de
ma
collecter ta
grand-mère
grand-mère.
paternelle.
Elle racontait quoi,
Qui
sa
racontait bien,
vie?
mais qui
Ouais.
racontait sa vie.
Ouais,
Qui racontait sa vie. Elle avait vécu donc à la ferme, hein, tu
ouais.
vois.
Ouais.
Voilà, mes parents étaient agriculteurs aussi. J'ai grandi dans la maison où elle-même avait fait toute sa vie de femme, voilà, de paysanne et de maman. Et c'est un endroit où il s'était passé quelque chose. Enfin, il y a eu un drame, une empoisonneuse dans cette famille, enfin, avant moi et tout ça. Et donc, ma grand-mère, elle avait des histoires incroyables de revenants. Enfin, voilà, tu vois,
Ah
j'étais nourrie
oui.
de toutes ces histoires-là.
En Bretagne.
Et en Bretagne, voilà.
C'est vrai que quand
Et
tu lis les contes de Bretagne, il y a quand même beaucoup d'histoires
voilà.
de morts et de revenants
Ouais,
déjà.
moi, je suis beaucoup rentrée par cette
Ouais,
porte-là. Ça,
ouais.
m'a. Et ça
Ah ouais,
m'intéresse toujours
ouais,
autant.
ouais.
Je les raconte moins, mais ça me.
Ouh.
Ouais, ça ouvre les portes du mystère
Ouais,
pour moi. Et ça,
ouais.
c'est quelque chose qui
Ouais.
m'attirait beaucoup et qui, ouais, qui continue.
Il y avait une fois un seigneur qui vivait avec sa femme dans un beau château à la campagne. Ces deux-là venaient juste d'avoir une petite fille. Une petite fille qu'ils avaient appelée Tali. Cette petite, dès le jour de sa naissance, elle avait quelque chose de particulier. Son parfum. Elle sentait la fleur d'oranger. Tout content, le seigneur et sa femme organisent une fête pour célébrer l'événement. Ils y invitent tous les plus grands devins du pays. Le jour de la fête, à la fin du banquet, les devins se lèvent les uns après les autres pour prédire l'avenir de la petite fille. Tous lui prédisent un avenir de rêve. Elle épousera un prince, elle aura de nombreux enfants, elle sera
Oui,
riche,
tous
intelligente.
lui prédisent cette vie comme dans les contes, sauf un. Il y a un devin qui ne veut rien dire. Le seigneur insiste. Rien à faire, le devin prend ses affaires et s'apprête à partir. Le seigneur le suit, l'attrape par le col de la chemise et lui dit: Tu parles ou tu ne sortiras pas vivant d'ici.
Devant un choix pareil, le devin se décide à parler. Tu perdras ta fille le jour où une écharde de lin entrera dans son doigt.
Pour empêcher que Tali ne se pique, le seigneur fait interdire le lin dans toute l'étendue de son domaine.
C'est dans le coton qu'il élève sa fille, loin de toute écharde. Le temps passe. Tali grandit. Elle devient chaque jour un peu plus belle et un peu plus gracieuse. Un jour, Tali est dans sa chambre, elle regarde par la fenêtre, et voilà qu'elle voit passer une vieille dehors. Et cette vieille, tout en marchant, file une quenouille de lin.
Hey, la vieille. Elle sait bien qu'il n'y a pas droit de filer le lin.
Elle sait bien qu'il n'y a pas le droit de filer le lin.
Elle sait bien qu'il n'y a pas droit de filer le lin. Alors le matin, elle fait son jardin, elle pense à ceci, elle pense à cela, oh mamma mia. Mais elle peut pas s'en empêcher, la quenouille de lin qui se plaint, elle se met à filer. Elle sait bien qu'il n'y a pas droit de filer le lin. Alors le midi, elle traite ses brebis. Alors le matin, elle fait son jardin. Elle pense à ceci, elle pense à cela. Oh mamma mia. Mais Elle veut pas s'en empêcher, la queue de l'un qui se plaint, elle se met à filer. Elle sait bien qu'il n'y a pas droit de filer le lin. Alors le soir, elle va au lavoir, alors le midi, elle tresse ses brebis, alors le matin, elle fait son jardin, elle pense à ceci, elle pense à cela, oh mamma mia. Mais elle peut pas s'en empêcher, la queue de l'un qui se plaint, elle se met à filer.
Tali est intriguée par cette vieille femme avec ses drôles d'outils. Un fuseau, une quenouille. Elle n'a jamais vu ça avant, elle. Elle ne sait même pas ce que c'est. Alors Tali ouvre la fenêtre et crie à la vieille de monter la voir dans sa chambre. La vieille monte l'escalier et elle arrive sur le pas de la porte de la chambre de Tali. Bonjour, madame.
Bonjour, petite.
Je voulais savoir ce que vous faites là avec vos drôles d'outils.
Eh bien, je file le lin.
Hein?
Mais je file le lin. Oh, je sais bien qu'il n'y a pas le droit de filer le lin dans ce pays. Mais enfin, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas m'en empêcher.
Bah, écoutez, moi, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire, filer le lin.
Ah non?
Non. Vous pouvez m'apprendre?
À cause d'une écharde, l'interdit, un extrait du livre audio « Histoire de perdre la tête », Fabienne Morel et Déborah Di Giglio, musique Valeria Simo.
Il y a un moment où tu as su que c'était un métier ?
Alors, j'avais eu l'occasion d'entendre des conteurs, mais là, plutôt jeune adulte, ouais. Parce que jeune adulte, j'ai eu l'occasion d'entendre des conteurs en galop, parce que moi, j'ai beaucoup fréquenté ce milieu galop, là, à la fois dans les fest-noz, mais aussi les veillées où on entendait des conteurs, bah, Gigi, d'ailleurs, j'ai entendu au tout début quand t'es conteur en galop, tout ça, mais pas que elle. Donc, c'était pas des gens, dans ce cadre-là, qui en faisaient une profession, il y avait beaucoup de conteurs qui comptaient comme ça. Et puis après, quand j'étais à Paris, c'est là que j'ai commencé les ateliers de clown. C'est à l'atelier de clown que j'ai entendu parler de ça comme d'un métier et comme aussi de la possibilité de se former à ça. Je vivais déjà dans le 11e à ce moment-là. Et on me parle d'un festival de contes sur cet arrondissement qui proposait des stages d'initiation sur une semaine. Pas sur une semaine, sur un week-end.
Génial.
Et là, j'y vais. Et c'était Gilles Bisouin
qui animait ça.
Et là, Gilles, moi j'avais adoré cette initiation sur un week-end. Ouais. Il me parle de cette formation qu'il a animée pendant plusieurs années au conservatoire du 12e arrondissement.
Il n'y a pas tant d'endroits en France où les conservatoires ont ouvert.
Ah ouais. C'était le seul. À l'époque, c'était le seul. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres
effectivement,
depuis.
Effectivement, ça permet que des apprentis comédiens puissent percevoir, sentir, discerner qu'est-ce que c'est à quel endroit ça se situe.
Ah oui, oui. Moi, je suis très, très reconnaissante à Gilles de m'avoir ouvert ces portes-là. Ouais. Il a une façon très sensible, intelligente d'amener là. Et lui, il était le référent. Mais ce qui était très riche dans cette formation, c'était il faisait appel à plein de conteurs qui ne faisaient pas comme lui. Du coup, c'était hyper riche, parfois déstabilisant, parce que l'un disait le contraire de l'autre et
c'est
tout.
Ça.
Mais du coup, c'est génial. Une tellement belle opportunité de se faire sa façon à soi et de se tricoter sa parole à soi. C'était magnifique. Et du coup, j'ai rempilé plusieurs fois parce que il faisait ça sur 4 mois quand même. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Claire Garrigue aussi.
D'accord.
Et d'autres.
Il y avait une fois une femme qui élevait 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Et cette femme-là, c'était la belle-mère des 2 enfants.
Mais non, c'était la mère des 2 enfants.
Non, c'était la belle-mère.
La mère.
Bon.
On ne sait pas si c'était la mère ou la belle-mère.
Mais une chose est sûre, cette femme-là, elle aimait pas le petit gars.
È vero, preferiva la bambina.
Un jour, cette femme envoie les 2 enfants dans la forêt pour aller ramasser du bois. Elle promet à celui des 2 qui rentrera le premier de lui offrir la paire de souliers rouges. Les souliers rouges que les 2 enfants convoitent tant.
Les souliers rouges.
À midi, le travail est fait. Les deux hôtes sont pleines de bois. Il est temps pour les enfants de rentrer à la maison. Mais qui arrivera le premier?
C'est moi.
Toi? Et pourquoi?
Bah, parce que moi je suis le garçon.
Et alors?
Bah, les garçons, ça court plus vite que les filles.
Hein. C'est ce qu'on va voir.
Bon, tu veux faire la course?
Oui.
D'accord.
Tout de suite.
Un, deux, trois.
La jolie petite fleur. Je vais accueillir un beau bouquet.
Et c'est comme ça que le garçon arrive le premier à la maison. Il dépose sa hotte pleine de bois près de la cheminée et il réclame sa récompense. La femme lui dit que les souliers sont rangés dans le coffre à l'autre bout de la pièce. Alors tout content, le petit garçon court jusqu'au coffre, soulève le lourd couvercle et penche la tête à l'intérieur.
La femme referme le couvercle sur la tête du petit gars.
Pourquoi il coupe pas la tête du petit gars?
Parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas.
Oh. À la tête elle ajoute de la nette, mais qui donc le mangera? Cet étonnant repas. Pourquoi il coupe pas les pieds du petit gars?
Parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas.
Au pied, elle ajoute du laurier. À la tête, elle ajoute de la nette. Mais qui donc le mangera? Cet étonnant repas.
Pourquoi elle coupe pas les mains du petit gars? Parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas.
Aux mains, elle ajoute du thym. Au pied, elle ajoute du laurier. À la tête, elle ajoute de la nette. Mais qui donc le mangera? Cet étonnant repas.
Pourquoi elle coupe pas les fesses du petit gars? Parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas.
Aux fesses, elle ajoute de la graisse. Aux mains, elle ajoute du thym. Aux pieds, elle ajoute du laurier. À la tête, elle ajoute de la nette. Mais qui donc le mangera? Cet étonnant repas.
C'est pas pour dire, aujourd'hui Fabienne Morel raconte avec Déborah DiGilio les contes de leur enfance. Alors, tête coupée, tête recollée, les épreuves initiatiques dans les contes merveilleux sont parfois terribles. Alors, les deux conteuses y mettent aussi de l'humour. Vous venez d'entendre ici leur version du conte du Genévrier.
En plein milieu du Festival des Héroïnes, ce soir avec Claire, vous jouez.
Oui.
Vous racontez.
Oui.
Vous racontez quoi?
On va raconter La vieille fille qui crachait sur la télé et autre histoire de famille.
Donc on fait la boucle avec les histoires de famille.
Exactement.
Tu parles de ta grand-mère là?
Eh bien, étonnamment, non.
Non. D'accord.
Étonnamment, non. Alors, ça, okay. C'est très étonnant parce qu'en fait, le spectacle qu'on va faire ce soir avec Claire, il s'est construit d'une manière assez étonnante, en fait. Parce que donc c'est un spectacle dans lequel on chante autant qu'on raconte. Ce qu'on a fait ensemble, parce que ce qui nous a d'abord connectés ensemble, Claire et moi, c'est le chant.
C'est des chansons.
Parce que Gilles l'avait fait venir au conservatoire pour comment on amène le chant dans les histoires. Et il se trouve que moi, j'ai démarré en même temps le chant et les contes. Donc j'avais déjà...
Ça chantait chez toi?
Alors,
ces chansons trad,
pas petites, non. Mais mon frère fait du collectage, enfin il s'est intéressé à ça, lui.
D'accord.
Quand il avait 18-20 ans, et il en a fait une profession, il travaille pour Dastum.
D'accord.
C'est un grand collecteur, un chanteur, enfin incroyable.
Redis pour les gens qui ne savent pas, Dastum c'est...
Alors Dastum c'est une association qui a été créée, je crois, dans les... Alors ils ont fêté les... 50 ans, je crois, là. Oh, je ne sais plus. Ils ont fêté l'anniversaire l'année dernière. En tout cas, ça fait plusieurs dizaines d'années que ça existe.
Ouais.
Et c'est une association qui a vocation à collecter tout ce qui touche au patrimoine immatériel.
Oui,
en
ça fait comme un conservatoire.
Donc, il y a des milliers d'heures d'enregistrement de gens qui, ben, comme toi tu fais, mais qui vont voir les anciens, et pas que les anciens, mais enfin, c'est souvent les anciens qui tiennent la mémoire à la fois de... des chansons traditionnelles, mais aussi des musiques, des danses, des contes, des croyances, des légendes, des pratiques. Voilà, ils collectent. Enfin, il y a aussi, ils ont aussi réuni des photos aussi, du visuel.
Et c'est particulier à la Bretagne. Hein.
Cette association couvre la Bretagne historique, parce que ça touche aussi la Loire Atlantique. Il y a le Dastum 44. Il y a des antennes dans, il y a des pôles Dastum un peu partout en Bretagne. Et donc mon frère Vincent Morel est responsable de toute la partie Haute-Bretagne. Et donc lui, il a lui-même énormément collecté, mais dans ses tâches actuelles, c'est aussi d'aller voir les gens qui ont collecté ou qui collectent encore pour les convaincre de justement déposer leurs fonds à Dastum.
Ah oui.
Et voilà. Ouais, et donc il y a tout un travail qui est vraiment au très long cours et qui avance un peu tout le temps, de numérisation. Et donc maintenant, il y a une plateforme qui est accessible gratuitement.
Ouais,
j'invite les gens à aller consulter ça. C'est des mines
d'or. Tu vas sur Internet.
Des mines d'or, ouais. Dastum Media.
Les fusils sont sur la table, tout prêts à mettre au côté à du Bolbec. Noble lieu, puisqu'il te faut dire adieu.
Adieu, Bolbec.
Noble lieu, puisqu'il te faut dire adieu.
Ma mère, elle raconte que quelquefois, elle était petite là, la nuit elle entendait son père qui rentrait. Alors là, elle se serrait contre sa grande sœur Jacqueline, là, elle dormait toutes les deux dans le même lit. Puis elle tendait l'oreille, elles entendaient toutes les deux le père qui montait l'escalier en titubant, en jurant, complètement bourré. Ouais, je vous l'ai dit, René s'était mis à boire pour oublier ses peines. Il a bu jusqu'à la fin de sa vie. Et il est mort à 89 ans. Quoi? En tout cas, moi, quand j'étais petite, j'avais du mal avec ce pépé-là. Il faut dire qu'il a vécu chez nous jusqu'à mes 14 ans. Et c'était un bonhomme pas facile. Grand, sec, grognon, toujours en train de fumer. Il nous grognait dessus, nous les gosses, là, parce que, soi-disant, on l'empêchait d'écouter des chiffres et des lettres à la télé. Ouais, parce que lui, la télé, il crachait pas dessus. Hein. Il passait des heures devant le poste. Ah, voilà. Moi, c'est vrai que j'étais toute jeune, je savais pas tout ça. C'est bien plus tard que j'ai connu son histoire. Assis à table sans rien dire, je commence par m'ennuyer. Et de là, je commence à dire, mes amis à la santé, que chacun nous boit son verre, je bois le mien d'amitié. Mes parents me font le reproche, je dépense tout mon argent. Je ne dépense pas sans boire, comme le font tous mes amis. Dans mon verre, dans ma bouteille, il y a toujours du vin dedans.
La voix de Fabienne Morel dans La vieille fille qui crachait sur la télé. Un formidable spectacle en forme d'arbre généalogique sensible que peut-être vous avez vu et entendu lors du festival Héroïne de sept lieux, édition 2024. C'est pas pour dire, en compagnie de Fabienne Morel.
Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as raconté devant des gens, en public ?
Je pense que c'était la première fois. Gilles, dans sa grande générosité, quand on était en formation, lui, je crois qu'il programmait un lieu. J'ai oublié comment ça s'appelait ce lieu, dans Paris. Et en tout cas, il tenait toujours à ce qu'il y ait une première partie. Et donc, les premières parties étaient proposées, par exemple, entre autres, aux élèves du conservatoire. Après, il devait y en avoir d'autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de raconter la première fois. C'est un souvenir, moi qui ai une mémoire vraiment très petite, j'oublie énormément de choses, mais ça je m'en rappellerai toute ma vie.
Ouais.
J'avais raconté une histoire de lavandière de nuit, voilà, c'est une des premières histoires que j'ai racontées.
Fameuse lavandière.
Donc une histoire normalement pour faire peur aux gens.
Ouais.
Et je vais vous avouer quelque chose, c'est que moi par ailleurs, je suis une phobique de tout ce qui est souris, rats et choses comme ça. Et donc, j'avais une de mes meilleures amies qui était là, présente dans le public, pour voir la première fois où la copine va raconter devant un public. Et voilà que sur la scène, pendant que je raconte cette histoire pour faire peur aux gens, une petite souris commence à déambuler sur la scène.
Ah, donc la fille qui a peur, c'est toi.
Mais non, parce que moi, je ne l'ai pas vue. La fille qui a eu peur pendant tout le spectacle, c'est ma copine qui transpirait en disant « Si Fabienne voit la souris, elle c'est la fin de sa carrière. Elle part en courant. »
Ah, c'est génial.
Et je ne l'ai pas vue.
Pour dire, c'est l'été. Nous sommes au festival Héroïne de 7 lieux. La conteuse Anne Guelgo du show dialogue avec la conteuse Fabienne Morel.
Depuis un certain nombre d'années, tu vas peut-être me dire combien, tu fais un duo.
Ouais.
C'est quoi?
C'est le duo huile d'olive et beurre salé.
Huile d'olive et beurre salé. Donc on imagine bien que le beurre salé, c'est du côté de chez toi.
C'est du côté de chez moi. De l'huile d'olive, on voit bien que ça allait vers le sud. Ouais. En l'occurrence, c'est une italienne. Ouais. Qui s'appelle Deborah DiGilio.
Voilà.
Et on s'est rencontrées toutes les deux, au moment où on se formait au conservatoire. C'est là qu'on s'est connues. Et en sortant de la première session, on était toutes les deux vraiment très motivées pour continuer le conte. Et on s'est dit, mais là, on se retrouve toutes seules alors pour travailler. Mais ça va être horrible.
Comment on fait ?
Ça te dit pas, toi, qu'on continue à se voir, à se donner rendez-vous ? Donc au début, c'était ça. C'était juste.
Vous étiez parisienne à ce moment-là ?
On était parisiennes toutes les deux à ce moment-là. C'était juste, on se donnait des rendez-vous très réguliers pour donner des retours l'une à l'autre, chacune sur son répertoire solo. Et puis moi, j'intervenais sur. Il y avait une association dans le 20e qui proposait des choses pour les enfants sortis d'école et tout ça. Puis je ne sais plus comment j'étais entrée en contact avec eux. J'allais m'entraîner un peu pour raconter des histoires. Puis il y avait un petit événement, j'ai dit tiens Déborah, ça te dirait pas qu'on essaye quelque chose ensemble? Et puis là on a monté très vite, c'est fou, parce que la première histoire vraiment c'était la
des fois c'est très fluide. Ah, et ça vient tout seul,
c'était une
magique,
version
ça.
Des trois petits cochons qui avait été collecté par Albert Poulain, qui est un grand collecteur en Bretagne, la poulette et les trois maisonnettes. On a raconté ça, on s'est énormément amusé à la monter. Les gens se sont énormément amusés à l'écouter. Et de là, ça a été. Tout est allé très vite après, en fait. On a eu l'opportunité de la faire à Vassivière, sous l'arbre, là, tu sais, la scène ouverte. On a eu la chance d'avoir des programmateurs qui ont fâché. Enfin bon, après, ça a vraiment été. Et du coup, on s'est dit, on va en faire d'autres, parce qu'une histoire, ça ne suffit pas. Et puis,
c'est un duo
en aiguille,
un peu burlesque, on pourrait dire. Tu dirais qu'il y a quelque chose comme ça?
Ouais, il y a une veine comme ça. Enfin,
y a une veine un peu clown, quand même.
Ouais, il y a une veine un peu clown. En tout cas, ce qu'on adore, je pense que Déborah serait d'accord avec moi, c'est qu'on aime quand même raconter des contes. On est beaucoup, nous, sur les contes merveilleux. Après, on a aussi des contes d'animaux, pour les plus petits. Ouais. Mais des contes, surtout, qu'on tient absolument à ne pas édulcorer, à les garder avec toute leur force éventuelle cruauté. Mais du coup, donc ça, c'est important. Donc, il y a des moments graves. Et puis, notre travail, c'est beaucoup d'aller de ça au rire, justement, et de basculer de l'un à l'autre. Et,
les gens qui n'ont pas eu l'occasion de rentrer un peu plus profondément dans le conte, quand tu dis conte merveilleux, souvent les gens pensent quelque chose de très. Voilà, c'est Disney ou c'est très édulcoré comme ça. Et ce que tu dis là, c'est que dans le conte merveilleux, il y a aussi des choses tout à fait crues, cruelles, brutes. Donc vous les enlevez pas.
Ah, surtout pas. J'adore. J'adore ça. Enfin, voilà.
Tu dirais pourquoi, en fait? Est-ce que c'est pas une histoire de sadisme de deux conteuses qui veulent faire passer les gens par des endroits difficiles?
Ouais, je sais pas comment nommer ça. Je pense que, alors, ce dont on n'a pas parlé aussi, donc le déclic pour moi s'est fait dans les ateliers de clown, parce que c'est là que... En fait, le lien s'était fait parce que quand on me demandait de partir en impro, moi j'ai toujours été en difficulté avec ce truc de l'improvisation, et le prof qui s'appelait Hervé Langlois m'avait dit, mais raconte quelque chose que tu aimes. Et je me suis souvenue que ce que j'avais adoré dans mon expérience d'instit, c'était de lire, à l'époque je lisais, les contes. Ça, je sais que j'aimais beaucoup faire ça. Et donc, je suis partie en impro sur Le Petit Chaperon Rouge, sur Barbe Bleue, sur des choses comme ça. Et donc, quand les gens, je ne sais pas, c'est dans une discussion informelle, les gens se sont dit, ils voyaient que ça m'animait, que ça m'allumait, ces histoires de contes, et on m'a basculé sur le conte. Et de là aussi, je ne sais plus, quelqu'un a dû me conseiller de lire Bettelheim, la psychanalyse des contes de fées. Et je pense que c'est vraiment là aussi un déclic pour moi de mesurer toute la profondeur qu'il y a derrière ces histoires, même si ces histoires me plaisaient d'avance, sans nommer quoi que ce soit d'autre que ça me plaît. Et là, de mesurer, tout ce qu'il y a derrière. Et du coup, je pense que...
Et qu'en effet, dans notre...
Que là, j'ai compris que, oui, c'est des histoires fortes, qu'on ne va pas les retoucher. Je veux dire, elles nous arrivent de là, de tellement loin, avec cette force-là, elles sont arrivées là. Ce n'est pas pour rien. On ne va pas s'amuser à faire du Walt Disney.
Puis qu'en réalité, c'est vrai qu'elles disent tellement des forces qui se combattent, qui s'ajustent, marient aussi
qui parle
à l'intérieur
de nous. Qui parlent de nos profondeurs, qui parlent... Alors voilà, je ne suis pas psy et je ne suis pas capable de les décortiquer et tout ça, mais moi, ça me suffit de savoir qu'il y a ça et de... Moi, je ne raconte pas, pratiquement, je ne raconte pas de contes facétieux. Je ne sais pas raconter ça. Je sais beaucoup plus faire rire avec des choses graves, en fait. C'est mon chemin, c'est ça. Et le conte facétieux, les trucs qui sont écrits pour être drôles, c'est pas mon truc.
Eh oui, Thalie découvre là, sur son ventre, deux petits bébés tout mignons, tout potelés. Alors elle prend le petit garçon, et elle le met à téter. « Toi, mon grand, je t'appellerai Soleil. » Et puis elle prend la petite fille et elle lui offre l'autre sein. « Et toi, ma toute mignonne, je t'appellerai Lune. » « Ah, qu'est-ce que vous êtes mignons, mes chéris d'amour. Mais je me pose juste une question. Je ne sais pas d'où vous venez. Ah oui, ça doit être la cigogne. » Quelque temps plus tard, le roi repart à la chasse. Sur son chemin, ce jour-là, les orangers sont en fleurs. Le parfum des orangers réveille sa mémoire. L'envie lui prend de retourner voir la belle endormie.
Il arrive au château et, surprise, il retrouve Thalie réveillée avec deux enfants. Ses enfants. Le roi et Thalie prennent le temps de se connaître. Ils sont bien ensemble.
Tellement bien que le roi a du mal à quitter Thalie. Il passe plusieurs jours avec elle et les deux enfants. Mais au bout d'une semaine, il est obligé de repartir. Les jours qui suivent, il pense à eux sans arrêt. Il ne peut pas s'empêcher de prononcer à haute voix les doux noms de Lune, Soleil, Thalie.
Il vient les revoir souvent, à l'occasion de soi-disant parties de chasse qu'il organise. Il ordonne à son homme de confiance de s'occuper d'eux, de faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Mais à chaque fois que le roi passe du temps avec Thalie, quelqu'un dans son palais l'attend. « Surprise ! Sois moglie, sa femme. Le roi est marié. » Et la reine est jalouse.
Très jalouse.
Tada! Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de Segreti di Famiglia, secret de famille. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter une invitée très spéciale. Alors, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Madame la Puce!
Bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Oh non, mais c'est pas la peine d'applaudir, vous savez, si j'ai une petite puce toute seule, vous me faites grossir.
Oh, vous êtes modeste, Madame la Puce. Moi, je sais que vous avez été à l'origine du dévoilement d'un secret très succulent.
Oh, vous savez ça, vous?
Ah oui, de quoi s'agit-il?
Ah, mais écoutez, c'est vrai qu'une fois, j'ai eu l'occasion de surer quelque chose à l'oreille d'une reine.
Oh,
quelque chose de secret? Je dois dire que ça mine de ses pagailles dans la famille.
Je veux bien le croire, mais donnez-nous des détails. Qu'est-ce que vous avez chuchoté à l'oreille de cette reine?
Alors, voilà. Et d'abord, je me suis approchée tout près de l'oreille de la reine. Et je lui ai dit comme ça, l'air de rien, vous savez. Dites donc, la reine, ne trouve pas un peu fatiguée ton roi ces temps-ci?
Oh.
J'ai senti que ça commençait à prendre, alors moi, vas-y, continuez. Dites donc, la reine, ne trouve pas un peu bizarre que ton roi passe toujours autant de temps à la chasse et qu'il rapporte jamais aucun gibier?
Non.
Alors j'ai senti la reine, comment dire, en perplexe. Alors moi, j'en ai remis une couche. Dites donc, la reine, c'est quoi ce nom qu'il a toujours à la bouche, son mari? C'est qui cette Tali? C'est qui cette Tali?
Un extrait de À cause d'une écharde. La belle endormie dans le recueil, histoire de perdre la tête. Forcément, quand le feu du soleil italien rencontre la Bretagne, ça fait des étincelles. Avec le duo de conteuses huile d'olive et beurre salé de Fabienne Morel et Déborah Digilio.
T'as une autre activité, parce que là on est en train de parler d'oralité. T'as une autre activité qui est une activité d'auteur.
Ouais, bah tout ça c'est arrivé en même temps dans ma vie en fait. Alors oui, parce que j'ai pas complètement répondu à ta question du début de ce que j'avais fait avant le conte. Ouais. Mais il se trouve que j'avais travaillé dans l'édition aussi.
Ah d'accord.
Voilà, j'étais aussi atterrie par le monde du livre.
Et tout amené là en fait.
Ah, écoute,
c'est génial.
Mais c'est en fait moi quand j'ai commencé le conte. Alors j'avais bossé dans l'édition, j'avais été guide conférencière aussi. Faut savoir aussi que quand j'étais étudiante en histoire, j'avais un stress monumental dès lors qu'il fallait prendre la parole devant les autres, tu vois, sur les oraux et tout ça. Et tu vois, partout où je suis passée, j'ai eu l'impression quand j'ai trouvé le compte que je faisais ma natte, enfin tu vois, que je réussissais à tresser ce qui m'avait plu dans tous mes boulots. Tous les boulots que j'ai faits m'ont plu, franchement. Ouais. Mais il me manquait toujours quelque chose.
Ah, c'est génial.
Et quand j'ai trouvé le compte... c'est très drôle parce que le déclic s'est fait. je peux raconter ça. J'ai bossé à l'époque dans une maison d'édition. Là, j'étais plus sur le. Avant, j'avais travaillé sur le patrimoine, mais là, c'était plus des guides de voyage.
Ouais.
Et c'était une maison où je ne me plaisais pas. Voilà, humainement parlant, les gens qui dirigeaient cette boîte, c'était insupportable. Je ne sais pas s'ils m'entendent.
Ah.
Mais voilà. Vraiment. Et j'arrivais en fin de CDD et ils me convoquent un soir en me disant: écoute, Fabienne, on est content de ton travail, on te propose de rester en CDI. Je rentre chez moi, vendredi soir, je pleure tout le week-end.
Oui.
Je pleure. Ouais. Et en me disant, je me dis, mais pourquoi je pleure? J'ai un contrat dans l'édition, c'est quand même magnifique, c'est super dur de trouver un CD dans l'édition. En plus, j'étais avec ma meilleure copine et tout ça. Mais non, mais ça, je pleurais. Ouais. Puis, j'ai un copain au téléphone qui me voit dans cette détresse. Il dit, mais Fabien, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et là, je sors un truc qui n'était jamais arrivé à ma conscience. Et je dis, je crois que je veux faire des spectacles pour les enfants. C'est... Wow. J'étais plus en lien avec les enfants, j'avais terminé depuis plusieurs années le travail avec d'Instit. Donc voilà, je me suis retrouvée à faire des spectacles pour les enfants. Après, pas que pour les enfants, mais c'est d'abord parti par cette ficelle. Donc j'ai retrouvé les enfants, j'ai retrouvé le patrimoine, puisque là j'ai nagé dans le patrimoine oral, je me suis délectée à lire toutes les versions. Et j'ai beaucoup passé de temps au début à lire beaucoup les collectages qui avaient été faits en Bretagne, parce que je suis très attachée à ma culture bretonne, ça, depuis toute petite.
On peut dire une chose pour les gens qui savent pas ça, parce que tu parles de versions différentes et tout ça. On peut peut-être préciser ça, que quand on entend un conte, en général, c'est alors, pas voilà. Un individu isolé.
C'est ça, mais en fait, moi, quand j'ai commencé à lire, c'est pour ça que je vais sur ce terrain-là, quand j'ai commencé à lire plein de contes, on va dire, de Bretagne, et je me suis aperçue qu'on retrouvait les mêmes histoires, mais un petit peu différemment. Et puis, évidemment, en côtoyant les autres conteurs, j'entendais aussi des choses de d'autres pays. Et c'est ça, je pense, qui m'a le plus fascinée quand j'ai démarré le conte, c'est cette universalité du conte à travers les différentes versions. Et c'est de là que j'ai eu le déclic d'en parler, du coup, voilà, une éditrice que j'avais eu l'occasion de rencontrer pour un autre livre qui n'avait rien à voir avec le conte. Et je lui ai j'ai eu un jour, je me vois encore dans un square du 11e, en train de marcher et en me disant, mais en fait, c'est pas juste qu'il n'y ait que les conteurs qui soient, et les scientifiques, enfin, les gens qui sont très pointus sur le conte,
qui sachent ça.
Mais je dis, mais tout le monde devrait le savoir, c'est trop magique, c'est trop merveilleux. Il y a tellement d'autres choses derrière, et tellement. Moi, j'étais fascinée par ça.
Ouais.
Et du coup, comme j'avais eu cette bonne accroche avec, je vais la nommer, Sandrine Mini, qui à l'époque était éditrice chez Autrement Jeunesse, elle m'avait ouvert les portes en me disant, si tu as des idées, tu me dis, si tu as des projets. Et donc, j'étais venue la voir avec ce projet qui est devenu Le Tour du Monde d'un Conte, et qui ne s'est concrétisé qu'un peu plus tard quand elle est devenue éditrice, directrice des éditions.
C'est exactement ça.
Voilà, c'est le principe de faire découvrir la multiplicité des versions. Et quand je lui en ai parlé la première fois, à la fois ça l'a fascinée, et à la fois il s'est dit, oh là 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 là, mais ça c'est un truc qui va intéresser...
Que les intellos,
c'est bien trop pointu ton truc et tout ça. Prouve-moi que c'est pas trop rébarbatif de lire plusieurs versions.
Ouais.
Donc j'avais fait une maquette avec plusieurs versions de Blanche-Neige pour lui montrer la variété tout ça. Et de fil en aiguille, voilà, l'histoire, la collection a existé.
Ouais.
Moi j'étais quand même tout au début de...
On peut la trouver où alors?
Alors,
c'est quelle maison d'édition?
Les éditions Syros.
Syros.
Elle a eu à cœur, enfin nous, je dis nous parce que du coup il y a Gilles Bizouerne qui m'a rejoint pour l'écriture, parce que moi j'étais au tout début de mon travail de conteuse, je me sentais un bébé conteuse, je me suis dit voilà, je m'embarque dans un truc, il me faut quelqu'un qui a des épaules un peu plus solides, et on avait demandé à Nicole Belmont d'être marraine de la collection.
Il y a une émission sur Nicole Belmont, vous pouvez la retrouver.
Ah, t'as fait une interview de Nicole, donc Nicole, magnifique, voilà, une chance énorme d'avoir travaillé avec elle sur cette collection. Et donc voilà, quand les titres petit à petit se sont retrouvés épuisés, l'éditrice était attachée, enfin Sandrine est très attachée à cette collection aussi, et puis Gilles et moi. Et donc voilà, ils ont été réédités sous forme de recueil.
Ouais.
Donc il y en a maintenant, ils existent sous forme de 3 recueils. Voilà, il y en a qui s'appellent Les Belles. Il a fallu trouver un titre pour réunir des contes qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, c'était pas évident. Mais on retrouve du coup là, tous les contes, toutes les illustrations aussi. Toutes les postfaces qui avaient été écrites par Nicole, qui éclairent justement la symbolique du conte, le parcours du conte et tout. Donc il y en a qui s'appellent Les Belles, le deuxième Les Rebelles, et le troisième Le Tour du Monde des Contes des Petits, ou un truc comme ça.
J'avais 3 jolies filles que y ont la chicorée. J'avais 3 jolies filles maudites chicorées. Il ne reste que moi que y ont la chicorée. Il ne reste que moi, maudite chicorée. Tes sœurs ont disparu, cueillons la chicorée. Tes sœurs ont disparu, maudite chicorée. Je retrouverai mes sœurs, cueillons la chicorée. Je retrouverai mes sœurs maudites chicorées. Prends garde à toi, ma fille, cueillons la chicorée. Prends garde à toi, ma fille maudite chicorée.
Maudite chicorée, signe de pauvreté.
Maudite chicorée, que chaque jour, il faut ramasser.
Maudite chicorée. La chicorée est une salade. Autrefois, on ramassait la chicorée en Italie dans les champs, quand on n'avait rien d'autre à manger. Et c'est à cause de cette salade qu'une femme a perdu 2 de ses filles. Ce jour-là, la mère est rentrée chez elle, en laissant dans le champ sa troisième fille.
Sa troisième fille qui s'appelle Mariuzza. Mariuzza veut absolument retrouver ses deux sœurs aînées, Teresa et Concetta. Elle ne sait pas du tout par où elles sont passées. Alors elle se met à marcher au hasard, droit devant elle. Elle marche, elle marche, elle marche, et elle finit par tomber sur une grosse chicorée.
Grosse ? Mais elle était énorme, cette chicorée !
Oui, enfin, c'était une grosse chicorée,
quoi. Tellement grosse qu'elle arrivait à percer les nuages. Je te rappelle que c'est une chicorée italienne.
T'exagères.
Bon, c'est pour dire que Mariuzza a du mal à l'arracher. Et puis, elle s'y met avec toutes ses forces, et hop, elle arrache.
Sous cette chicorée, Mariuzza découvre une trappe. Une trappe en fer. Elle la soulève. Il y a un escalier qui s'enfonce dans la terre. Mariuzza descend les marches. Elle arrive dans une grande pièce, toute voûtée. En face d'elle, une cheminée en pierre, sculptée. Et à côté de la cheminée, il y a une porte en bois. Tout d'un coup, la porte s'ouvre et un dragon fait son apparition.
C'est moi, le dragon. Regardez quelle jolie fille m'est tombée aujourd'hui du ciel.
Je vous en prie, monsieur le dragon, ne me faites pas de mal.
Calme-toi. D'abord, les présentations. Moi, on m'appelle le dragon. Et toi, chérie d'amour?
Je m'appelle Mariuzza.
Mariuzza, quel joli prénom.
Je vous en prie, monsieur le dragon, ne me faites pas de mal. J'ai pas fait exprès de tomber chez vous. J'étais là-haut en train de ramasser la chicorée avec ma mère et mes deux sœurs parce que, vous savez, on est tellement pauvres qu'on est obligé d'aller vendre la chicorée au marché tous les jours. Mais enfin, en ce moment, je sais pas, il y a un écroulement du cours mondial de la chicorée, on n'arrive plus à se sortir. En plus de ça, on a perdu en rendement. Vous imaginez, j'ai perdu mes deux sœurs aînées que j'aimais tant. Alors, forcément, je les ai cherchées un petit peu partout. J'ai demandé aux voisins, aux voisines.
Ah,
vous les auriez pas vus, vous? Par hasard.
Aiguise, couteau, coutrille, par le duo huile d'olive et beurre salé. Angel Goduchot est en compagnie de Fabienne Morel dans C'est pas pour dire, bien sûr.
C'est une double question. D'abord, qu'est-ce que c'est qui te plaît au fur et à mesure, là maintenant que ça fait un certain nombre d'années que tu racontes, qu'est-ce que c'est qui fait que tu as toujours envie de raconter?
Je pense que le moment, c'est le moment de la relation, c'est le moment où on rentre en contact avec les gens. Le truc qui se passe, qui est indicible souvent, les regards qui s'allument, on est ensemble, quoi, c'est ça qui est très fort. Je pense que c'est ça.
Ça fait d'ailleurs partie, j'ai l'impression, tu parlais des contes qui peuvent être quelquefois brutaux, enfin il y a des épreuves qui ne sont pas de la gnognotte à des moments dans les contes, et c'est vrai qu'on est ensemble quand même pour les traverser, ça c'est quand même fort.
Après j'aime bien aussi le travail préliminaire au moment où on ne sait pas où on va, où on lit plein de versions et tout ça, je renoue avec mon petit côté rabibliothèque quand j'étais étudiante et que j'ai passé beaucoup d'heures dans les archives et tout ça, j'aime ça aussi. Du coup, c'est ce que je voulais dire aussi. Dans Conteuse, j'ai aussi retrouvé plein de choses que j'aime, en fait. La relation, le vivant, le rire, mais aussi l'étude, se plonger dans les livres.
À quoi on est au 21e siècle, il y a plein de manières de raconter des histoires, le cinéma, la réalité virtuelle, tout ça. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que on continue à raconter et que des gens continuent à venir écouter des contes. Qu'est-ce que c'est qui est particulier à cet endroit-là, à ton avis? À quoi ça sert, en fait?
On se sent vivant, je pense.
Ouais.
Moi, quand je raconte, je me sens vivante. Je me sens très vivante à ce moment-là. Et ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, des fois, on est crevé et tout. Mais c'est vrai qu'au moment de raconter, on n'est pas crevé, on est vivant. Et je pense que les gens... En tout cas, peut-être pas tout le monde, peut-être pas à chaque fois, mais quand même, on voit les fins de soirée où les gens te remercient, qu'ils ont passé un bon moment. Combien de fois des gens disent « Ah, je suis arrivée, j'avais pas très envie » ou « J'étais fatiguée » ou « Ah, ça m'a fait du bien d'être là ». Enfin, quand même, il y a quelque chose... Mais bon, peut-être aussi avec du théâtre, peut-être aussi avec d'autres choses, mais je pense quand même qu'on manie
que c'est différent. Aussi dans la relation dont tu parles, c'est-à-dire que
dans l'adresse,
quand j'écoute un conte, je me sens immédiatement concernée.
Ouais. Mais ça allume vraiment la confidence. Il y a souvent, souvent des gens qui viennent nous témoigner de tranches de vie qu'ils ont vécues, eux, quoi. Ouais. Ça ouvre la parole, ouais.
Ça, c'est intéressant aussi.
Particulièrement sur celui-là. Ouais.
Mariuzza sort de la poche de son tablier la petite clé en or et la tend en tremblant au dragon.
Mariuzza, tu m'as trompée. Exactement comme tes sœurs. C'est dommage, car maintenant, je suis obligée de couper ta ravissante petite tête. Mais avant que je ne te la coupe, va mettre ta robe de mariée. J'adore le rouge sur le blanc.
Le dragon attrape Mariuzza par le bras et va l'enfermer dans sa chambre. La chambre du dragon n'est éclairée que par un puits de lumière. La lumière tombe sur une petite table, celle où il y a la cage de la colombe. Juste à côté, sur le lit du dragon, il y a une tenue de mariée. Mariuzza entend un bruit. Ça vient de derrière la porte. C'est le dragon, avec son grand couteau.
Affila, fratello, coltello, per tagliare quel collo si bello. Aiguise, couteau, coutrille, pour couper le cou à la fille. Mariuzza.
Oui?
Tu es prête?
Non, dragon. Je suis en train de mettre mon jupon de dentelle. Oh là. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Avec ce dragon derrière la porte qui veut me couper la tête. Il n'y a pas d'autre sortie.
Mariuzza, moi je sais comment tu peux t'en sortir.
Hein? Qui a parlé?
C'est moi. La colombe. L'âme du dragon se trouve dans un œuf caché dans ma tête. Tue-moi et récupère cet œuf. Écrase-le sur le front du dragon. Il mourra aussitôt. Affila, fratello, coltello, per tagliare quel collo si bello. Aiguise, couteau, coutrille, Mariuzza.
Oui?
Tu es prête?
Non, dragon. Je suis en train de mettre mon corsage de soie blanche.
Autre chose, Mariuzza. Prends de la salive de la gueule du dragon et utilise-la pour écoller les têtes de tes sœurs. Affila, fratello, coltello. Aiguise, couteau, coutrille. Mariuzza.
Oui?
Tu es prête?
Oh non, dragon. Je suis en train de mettre ma couronne de fleurs d'oranger.
Mariuzza sort la colombe de la cage. Elle lui fait une dernière caresse. Puis elle la tue et récupère l'œuf.
Mesdames, messieurs, nous sommes maintenant en direct du palais souterrain du dragon. Vous avez à l'image le dragon en pleine concentration. Il est en train de faire ses exercices de musculation. Admirez la musculature du dragon. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la porte, il y a Mariuzza. Mariuzza, c'est la jeune fille qui a ouvert la porte interdite. Elle aussi se tient prête, elle a un œuf entre les mains. Pendant ce temps-là, le dragon pose la patte sur la poignée de la porte s'ouvre. Mariuzza tire un tir superbe. L'œuf tourne sur lui-même. Une trajectoire parfaite et c'est le but. Allô, la technique, je demande un arrêt sur image. Oui? Oui, exactement, entre les deux yeux, mesdames, messieurs, c'est incroyable! Mariuzza devient ainsi première au classement mondial de tir d'œuf sur dragon. Pendant que sous vos yeux, en direct, le dragon chancelle, le dragon titube. Mesdames, messieurs, le dragon s'écroule par terre. Il meurt en direct. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. À vous, les studios.
Mariuzza reste immobile avec le bras figé. Elle s'approche du dragon. Elle le touche pour vérifier qu'il est mort.
Et?
Il est mortissimo.
Oh.
Alors Mariuzza sort de sa poche un petit mouchoir de dentelle et avec ça, elle recueille la salive dans la gueule du dragon. Elle pense aussi à prendre son trousseau de clés à sa ceinture. Et avec tout ça, elle court jusqu'à la porte en or.
Elle ouvre, elle décroche les corps décapités de ses sœurs et ramasse les têtes et, sans se tromper, elle recolle la tête de Concetta. Elle recolle aussi la tête de Teresa. Ah, les trois sœurs se sont enfin retrouvées. Elles étaient tellement contentes, elles se sont prises dans les bras. Et puis, elles n'avaient qu'une seule envie, c'était celle de sortir de ce palais souterrain. Alors, elles ont repris l'escalier qui montait...
Oui, mais attends, tu oublies un petit détail. Ces trois sœurs. Ah, il faut croire que dans cette histoire, elles n'avaient pas complètement perdu la tête. Parce qu'avant de partir, elles sont passées par la salle du trésor. Et là, elles s'en sont remplies les poches.
C'est vrai. Puis, elles ont repris vite l'escalier, car derrière elles,
le palais souterrain était en train de s'effondrer sur lui-même. Elles sont arrivées dans les champs, elles ont appelé « Mama, Mama !»
La maman est sortie de chez elle, elle a couru vers ses filles et elle les a prises toutes les trois en même temps dans ses grands bras de maman.
Depuis ce jour-là, la mère et ses trois filles n'ont plus jamais cueilli de chicorée.
J'avais trois jolies filles cueillant la chicorée.
J'avais trois jolies filles maudites chicorées.
Il ne reste que moi cueillant la chicorée.
Il ne reste que moi maudite chicorée.
Tes sœurs ont disparu cueillant la chicorée.
Tes sœurs ont disparu, maudite chicorée.
Je retrouverai mes sœurs cueillant la chicorée.
Je retrouverai mes sœurs, maudite chicorée.
Prends garde à toi, ma fille, cueillant la chicorée.
Prends garde à toi, ma fille, maudite chicorée.
Un extrait, encore une fois, puisé dans le livre audio « Histoire de perdre la tête » illustré par Delphine Jacquot avec les musiques de Valeria Simo aux éditions Ouidir dans la collection « Contes d'auteur ». Beurre salé ou huile d'olive? Des histoires à deux voix, toujours à l'écoute de C'est pas pour dire.
Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser ou quelque chose que tu avais envie de dire et que tu n'as pas dit
Peut-être parler, parce que pour moi c'est la même chose et j'ai rencontré ça en même temps. En tout cas, je ne l'ai pas rencontré en même temps, mais je me suis lancée dedans en même temps. C'est la chanson,
ah oui,
le chant traditionnel. Voilà. Ouais. J'ai démarré les deux choses en même temps, le conte et le chant. Parce que
tu dirais qu'il y a quoi en commun entre ces deux matériaux? Ouais.
Alors moi j'étais déjà très nourrie de musique traditionnelle bretonne, ouais, puisque depuis gamine j'allais dans les fest-noz et tout ça, donc je suis rentrée par la danse en fait là-dedans. Ouais. Dans les textes, il y a vraiment des choses aussi dans les chansons traditionnelles qui sont... D'ailleurs, il y a des histoires qui sont échantées et racontées.
Oui, donc, il y a des matériaux aussi mystérieux.
Et puis après, des motifs aussi, qui peuvent être les mêmes.
Ce qu'on appelle les motifs, donc c'est...
Des petits bouts d'histoire, des petites scènes de l'histoire qu'on va retrouver dans des contes ou dans des contes différents, dans des chansons.
Quelquefois, il est possible, c'est mon hypothèse, mais quelquefois, il est possible qu'on raconte une histoire juste parce que ce motif.
Oui, moi.
Tu racontes toute l'histoire, clairement. Mais en fait, ce qui te fascine, c'est cette image-là.
Et en même temps, je dis ça, et c'est drôle parce que moi, je peux entendre plein de fois la même chanson et pas savoir ce qu'elle raconte. Parce que je suis d'abord, j'entends d'abord la musique. Et c'est d'abord les musiques qui font que je chante telle ou telle chanson. Donc c'est un peu contradictoire, j'en sais rien. En tout cas,
Donc les chansons.
Le chant, j'adore. Et puis je suis fascinée par les gens qui savent improviser. Là, ce que tu racontais sur ton expérience, moi, je sais pas du tout faire ça. Les mots me font peur en même temps. C'est marrant pour une conteuse. Mais parce que je prépare vachement moi en fait. Et donc je suis pas une conteuse qui improvise, mais je suis très attirée par l'improvisation et je m'aperçois là. De plus en plus que là où je vais pouvoir improviser, ça va être justement avec la voix, mais quand il n'y a pas de mots. J'ai fait un petit stage d'impro il n'y a pas longtemps, là je vais faire du circle song et tout. Je sens bien que c'est là que ça m'appelle et où je vais... C'est comme si j'ai pu... Parce que dans l'improvisation, dès qu'il y a les mots, moi j'ai quand même souvent le petit senseur à l'intérieur qui dit « c'est nul ce que je dis, ah t'es nul, tu... » Enfin voilà. Ah, moi, j'ai du mal j'ai du mal à le faire taire. Et dans le champ, il me fout la paix. Mmh. Et je m'éclate, quoi. Mmh. Donc,
Fabienne, merci.
Merci, Anne-Gaëlle. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a
dream. Hola, 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 mais nous arrivons au terme de cette enquête radiophonique. Il faut bien rendre les deux artistes conteuses au festival héroïne de cet lieu. Vous êtes d'accord, non? Alors, un grand merci à Anne-Gaëlle pour avoir assuré cette interview. Si vous voulez en savoir plus sur Fabienne Morel, vous pouvez vous rendre sur la page de l'éditeur Syros, spécialisé dans l'édition du Conte illustré, et découvrir les nombreuses publications et collaborations la concernant. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur notre site c'estpaspourdire.fr et nous envoyer vos commentaires, suggestions sur la page Facebook de l'émission. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête et Kenavo! I still have a dream.